Chapitre 11 : Le privilège du chrétien. Plusieurs de ceux qui cherchent sincèrement la sainteté du cœur et la pureté de vie semblent perplexes et découragés. Ils regardent constamment à eux-mêmes et se lamentent de leur manque de foi. Et parce qu'ils n'ont pas de foi, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se réclamer de la bénédiction divine. Ces personnes prennent le sentiment pour de la foi. Ils oublient la simplicité de la vraie foi et couvrent ainsi leurs âmes de grandes ténèbres. Ils devraient détourner l'esprit du moi, s'arrêter sur la miséricorde et la bonté de Dieu, se rappeler ses promesses puis simplement croire qu'il accomplira sa parole. Nous ne devons pas nous confier en notre foi, mais dans les promesses divines. Lorsque nous nous repentons de nos transgressions passées de sa loi, et prenons la résolution de devenir obéissants, nous devrions croire que Dieu nous accepte à cause du Christ et pardonne nos péchés. Les ténèbres et le découragement envahiront quelquefois notre âme et menaceront de nous submerger, mais nous ne devrions pas délaisser notre confiance. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, sentiment ou pas. Nous devrions chercher à accomplir fidèlement chaque devoir connu puis calmement nous reposer sur les promesses de Dieu. Une vie de foi. À certains moments, un sentiment profond de notre indignité fera passer un frisson de terreur dans notre âme, mais il n'y a aucune évidence que Dieu a changé à notre égard ou que nous avons changé à son égard. Aucun effort ne devrait être fait pour maintenir l'esprit dans une certaine intensité d'émotion. Nous pouvons ne pas ressentir aujourd'hui la paix et la joie que nous avons ressentie hier, mais nous devons par la foi saisir la main du Christ et lui faire aussi pleinement confiance dans les ténèbres que dans la lumière. Satan peut vous chuchoter à l'oreille, « Tu es un bien trop grand pécheur pour que le Christ te sauve. » Tout en reconnaissant que vous êtes en effet pécheur et indigne, vous pouvez affronter le tentateur avec ce cri, « En vertu de l'expiation, je réclame le Christ comme mon sauveur. Je ne me confie pas en mes propres mérites, mais dans le précieux sang de Jésus qui me purifie. En ce moment même, j'accroche mon âme impuissante au Christ. » La vie chrétienne doit être une vie de foi constante et vivante. Une confiance inébranlable et une ferme dépendance du Christ apporteront la paix et l'assurance à l'âme. Résistez à la tentation. Ne vous découragez pas parce que votre cœur vous semble dur. Chaque obstacle, chaque ennemi intérieur, ne font qu'accroître votre besoin du Christ. Il est venu pour enlever votre cœur de pierre et vous donner un cœur de chair. Attendez de lui cette grâce spéciale qui vous permettra de vaincre vos fautes particulières. Lorsqu'assailli par la tentation, résistez fermement aux pressions du mal. Dites à votre âme, « Comment pourrais-je déshonorer mon Rédempteur ? Je me suis donné à Jésus, je ne puis faire les œuvres de Satan. » Criez à votre cher Sauveur afin d'obtenir l'aide requise pour sacrifier chaque idole et mettre de côté tout péché chéri. Que le regard de la foi puisse percevoir Jésus debout devant le trône du Père, présentant ses mains blessées tandis qu'il plaide en votre faveur. Croyez que la force vous est transmise par votre précieux Sauveur. Le regard de la foi. Voyez par la foi les couronnes préparées pour ceux qui vaincront. Écoutez le cantique exaltant des rachetés, « Digne, digne est l'agneau qui a été immolé et nous a rachetés pour Dieu. » Efforcez-vous de considérer ces choses comme réelles. Étienne, le premier martyr, dans son terrible conflit avec les principautés, les puissances et les esprits mauvais dans les lieux célestes, s'est exclamé, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu » Actes 7.56. Le Sauveur du monde lui fut révélé comme le regardant des cieux avec le plus profond intérêt, et la glorieuse lumière de la face du Christ brilla sur Étienne avec un tel éclat que même ses ennemis virent sa figure briller comme celle d'un ange. Si nous voulions permettre à nos esprits de s'arrêter davantage sur le Christ et sur le monde céleste, nous trouverions là un puissant stimulus et soutien pour livrer les batailles du Seigneur. L'orgueil et l'amour du monde perdraient leur pouvoir alors que nous contemplerions les gloires de ce meilleur pays qui sera bientôt notre demeure. Toutes les attractions terrestres sembleraient bien peu de choses en comparaison des charmes du Christ. Que personne ne s'imagine que sans effort de sa part il pourra obtenir l'assurance de l'amour de Dieu. Lorsque l'esprit s'est depuis longtemps permis de s'arrêter sur les choses terrestres, c'est une chose difficile de changer ses habitudes de pensée. Ce que l'œil voit et ce que l'oreille entend attire trop souvent l'attention et absorbe l'intérêt. Mais si nous voulons entrer dans la cité de Dieu et voir Jésus dans sa gloire, nous devons nous habituer à le contempler ici-bas avec le regard de la foi. Les paroles et le caractère du Christ devraient souvent être le sujet de nos pensées et de notre conversation, et un certain temps devrait être spécialement consacré chaque jour à méditer avec prière sur ces thèmes sacrés. Faire taire la voix de l'Esprit. La sanctification est une œuvre quotidienne. Que personne ne se leurre en croyant que Dieu lui pardonnera et le bénira alors qu'il foule aux pieds l'une de ses exigences. L'accomplissement volontaire d'un péché connu rend silencieuse la voix de l'Esprit et sépare l'âme de Dieu. Peu importe l'extase du sentiment religieux, Jésus ne peut pas habiter dans le cœur qui ne tient pas compte de la loi divine. Dieu honorera seulement ceux qui l'honorent. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, Romains 6.16. Si nous nous adonnons à la colère, au désir, à la convoitise, à la haine, à l'égoïsme, ou à n'importe quel autre péché, nous devenons serviteurs du péché. Nul ne peut servir deux maîtres, Matthieu 6.24. Si nous servons le péché, nous ne pouvons servir le Christ. Le chrétien sentira les penchants du péché, car la chair lutte contre l'esprit. Mais l'esprit lutte contre la chair, maintenant ainsi un combat constant. C'est sur ce point que nous avons besoin de l'aide du Christ. La faiblesse humaine s'unit à la force divine et la foi s'exclame, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 15.57. De bonnes habitudes religieuses. Si nous voulons former un caractère chrétien que Dieu peut accepter, nous devons contracter de bonnes habitudes dans notre vie religieuse. La prière quotidienne est aussi essentielle à la croissance en grâce et à la vie spirituelle que l'est la nourriture temporelle à notre bien-être physique. Nous devrions nous accoutumer à élever souvent nos pensées vers Dieu en prière. Si l'esprit vagabonde, nous devons le ramener. Par un effort persévérant, l'habitude rendra finalement la chose facile. Nous ne pouvons pas nous permettre sans danger d'être séparés du Christ ne serait-ce qu'un moment. Sa présence peut nous accompagner à chaque pas, mais seulement si nous observons les conditions qu'il a lui-même posées. La religion doit constituer la grande priorité de notre vie. Toute autre chose devrait lui être subordonnée. Toutes les capacités de l'âme, du corps et de l'esprit doivent être engagées dans le combat chrétien. Nous devons chercher en Christ la force et la grâce et nous gagnerons la victoire aussi sûrement que Jésus est mort pour nous. La valeur d'une âme. Nous devons nous approcher davantage de la croix du Christ. La repentance au pied de la croix est la première leçon de paix que nous devons apprendre. L'amour de Jésus, qui peut le comprendre? Infiniment plus tendre et désintéressé que l'amour d'une mère. Si nous voulons connaître la valeur d'une âme humaine, nous devons tourner nos regards vers la croix avec une foi vivante et commencer ainsi l'étude qui sera la science et le cantique des rachetés pendant toute l'éternité. La valeur de notre temps et de nos talents ne peut être estimée qu'à la grandeur de la rançon payée pour notre rédemption. Quelle ingratitude nous manifestons envers Dieu lorsque nous le privons de ce qui lui appartient, lui refusant notre affection et notre service. Est-ce trop de nous donner à celui qui a tout sacrifié pour nous? Pouvons-nous préférer l'amitié du monde aux honneurs immortels que le Christ nous offre, s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, Apocalypse 3.21? Une œuvre progressive. La sanctification est une œuvre progressive. Les étapes successives nous sont présentées dans les paroles de Pierre, « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Pierre 1.5, 8. C'est pourquoi, frères, Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée 2 Pierre 1er octobre 2011. Un sentier est décrit ici dans lequel nous pouvons être assurés de ne jamais tomber. Ceux qui travaillent sur le plan de l'addition afin d'obtenir les grâces chrétiennes ont l'assurance que Dieu œuvrera sur le plan de la multiplication pour leur accorder les dons de son esprit. Pierre s'adresse à ceux qui ont obtenu une foi précieuse de la sorte, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 2 Pierre 1.2. Par la grâce divine, tous ceux qui le veulent peuvent gravir les marches brillantes allant de la terre au ciel, et entrer finalement au son des chants et dans une joie éternelle, Ésaïe 35.2, par les portes de la cité de Dieu. Notre Sauveur réclame tout de notre part. Il nous demande nos premières et nos plus saintes pensées, notre affection la plus pure et la plus intense. Si nous sommes vraiment participants de la nature divine, ses louanges seront constamment dans nos cœurs et sur nos lèvres. Notre seule sécurité consiste à nous abandonner totalement à lui et à croître constamment dans la grâce et la connaissance de la vérité. Le cri de victoire de Paul. L'apôtre Paul fut grandement honoré de Dieu, ayant été enlevé en vision jusqu'au troisième ciel, où il put contempler des scènes de gloire qu'il ne lui fut pas permis de révéler. Cependant, cela ne l'amena pas à la vantardise ou à la propre suffisance. Il réalisait l'importance de veiller constamment et de renoncer à lui-même, et il déclare clairement, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté », après avoir prêché aux autres 1 Corinthiens 9.27. Paul a souffert pour la vérité et cependant nous n'avons entendu aucune plainte sortir de ses lèvres. En repassant sa vie de travail, de soucis et de sacrifices, il déclare, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous » Romains 8.18. Le cri de victoire du fidèle serviteur de Dieu retentit jusqu'à notre époque, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Non, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8.35-39. Même si Paul fut finalement confiné dans une prison romaine, privé de la lumière et de l'air du ciel, coupé de ses labeurs actifs en faveur de l'Évangile et attendant d'un moment à l'autre son arrêt de mort, il ne se laissa cependant pas aller au doute ou au découragement. De ce triste donjon nous est parvenu son dernier témoignage, rempli d'une foi et d'un courage sublime qui ont inspiré les saints et les martyrs dans toutes les époques qui ont suivi. Ces paroles décrivent bien les résultats de la sanctification que nous nous sommes efforcés de présenter dans ces pages, « Je suis maintenant prêt à être offert », et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4.6, 8. Fin vie sanctifiée.